Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Anetta Sidor.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je suis ravi parce que enfin je peux retourner dans la vraie vie et partir vraiment à la rencontre de ces personnes inspirantes. Nous sommes dans ta boutique, à La Source, à Lyon. Tu nous en diras plus tout à l'heure, mais on est en chair et en os, avec les 2 mètres et plus de distanciation sociale réglementaire, mais on est là, en vrai. Je suis trop, trop content d'être là. D'autant qu'on va parler de plein de sujets, forcément, d'alimentation saine et locale, de vrac et ou zéro déchet, de minimalisme pour redonner de la place à son bonheur, d'entrepreneuriat. Bref, on va couvrir plein de sujets, ça va être passionnant. Mais avant, pour comprendre un peu où on est, j'aimerais que tu me dises, justement, à La Source, qu'est-ce que c'est ?
Merci en tout cas de cette invitation. Je suis contente de pouvoir en parler. À La Source, c'est une épicerie zéro déchet. Nous, on aime bien dire zéro poubelle. En fait, on a engagement en fait, depuis le début. Donc, ça fait 3 ans qu'on a ouvert, de ne pas générer de déchets pour le client, mais aussi pour le magasin. Alors après, on essaye de faire aussi notre mieux par rapport aux producteurs. Mais déjà, faire les deux, c'est assez complexe, c'est pas toujours évident. Donc en fait, c'est aussi une expérience, c'est un test qui pour le moment est réussi depuis 3 ans de tenir cet engagement-là. Donc on vend aussi des produits bio, on classe les produits par provenance pour aussi mettre en lumière les produits beaucoup plus locaux, moyennement locaux. On aime bien parler de extra-local ou local. Et après, tout ce qui vient de loin, on le met au fond du magasin avec une frise colorée au sol pour dire, voilà, là c'est vert, là c'est rouge. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année aussi. Donc en fait, on essaye d'être pédagogique. Donc en fait, on a à la fois un aspect vente, tout simplement commerce, pour pouvoir démocratiser aussi, toucher un public, parce qu'aujourd'hui, se nourrir, c'est une nécessité. Donc, on est un commerce de première nécessité. Et en même temps, jouer un rôle de pédagogie et de contact, de premier relais aussi, des fois, pour des personnes qui démarrent dans le zéro déchet. Et aussi, un acteur du quartier et de la ville sur le zéro déchet.
Alors, on va revenir sur l'activité complète, complexe, de cette boutique où tout de suite, quand on rentre, l'expérience que je viens de vivre là, c'est que c'est beau, ça donne envie hein, de toucher, de mettre dans son panier. Ça passe vraiment par cette beauté, l'accompagnement au vrac ou au zéro déchet. Justement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on différenciera tout à l'heure. Mais avant de rentrer vraiment dans ce détail-là, je voulais que tu me dises, parce que souvent en France, la première question qu'on se pose quand on ne se connaît pas, c'est qu'est-ce que tu fais ? Toi, si tu dois répondre à ça, et si tu dois donner un intitulé à ton métier actuel, tu dirais que tu fais quoi en fait ?
Souvent, je me présente comme entrepreneur, mais personnellement, je préfère parler de quelqu'un qui change les modes de vie, qui change aussi les états d'esprit. J'aime bien déclencher des déclics. Du coup, je me perçois plus comme ça, que ce soit au quotidien, comme aussi via des rencontres. Des personnes qui nous sollicitent aussi. J'ai plus l'impression que je fais ça que gestionnaire d'une entreprise, en tout cas.
Et ces déclics qui sont clairement sur la relation aux déchets, la relation aux objets. J'ai l'impression que toi, ton cheval de bataille, c'est vraiment l'idée de démocratiser le minimalisme à travers l'expérience d'À la Source, non ?
Voilà, il y a un peu les deux, effectivement, le zéro déchet, le minimalisme. Alors du coup, comme tu vois autour de toi, il y a plein d'emballages, il y a plein de... plein d'objets, donc on pourrait se dire mais elle n'est pas du tout minimaliste, mais en fait justement parce que le minimalisme pour moi c'est un rapport à l'objet, c'est pas la possession, le fait de parce qu'on possède beaucoup d'objets qu'on n'est pas minimaliste, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quel est le rapport à l'objet. Et effectivement pour faire du zéro déchet, le minimalisme est une porte d'entrée, ou en tout cas j'ai commencé comme ça, pas par le zéro déchet mais par le minimalisme, et du coup je trouve que ça facilite aussi la démarche de déconsommation, de ralentissement, d'aller à l'essentiel, que ce soit tout simplement dans ce qu'on achète, mais même dans nos rapports aux gens, au travail, etc.
J'ai l'impression parfois d'avoir un peu trop la tête dans le guidon sur certains sujets, notamment bon, bah voilà, les questions éco-citoyennes, notamment le localisme, le vrac et tout ça. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue parce que j'aurais tendance à dire que ça y est, le vrac, le zéro déchet, les épiceries comme À la Source, c'est gagné, il y en a de partout. Est-ce que ma perception est faussée ? Est-ce que toi, tu as encore l'impression d'avoir ton bâton de pèlerin et de devoir faire beaucoup de pédagogie, d'accompagnement, d'être une goutte d'eau face aux géants du milieu ?
Oui, complètement. Pour moi, il y a deux dimensions, en fait. Il y a à la fois contre la société de consommation classique. Moi, j'ai encore beaucoup d'amis ou de connaissances qui sont vraiment là-dedans, qui me regardent un petit peu comme une utopiste qui rêve, qui va se casser la gueule d'ici quelques années, que ça ne va pas marcher, etc. Bon, même avant que j'ouvre, c'est déjà comme ça. Et après, il y a aussi la bataille dans le milieu, parce qu'entre militants, entre écologistes, c'est pas facile non plus. Donc en fait, moi aussi, des fois, j'ai des débats, en tout cas des discussions qui sont pas facilitatrices de notre combat non plus. Donc en fait, on a l'impression qu'on se bat un petit peu sur tous les fronts. On a aussi des clients des fois qui viennent chez nous en disant ouais mais ça c'est bien mais là c'est pas assez, etc. Alors que moi je considère qu'on fait déjà quand même énormément de choses, donc c'est bien de s'améliorer tout le temps, mais en fait je pense que notre bataille elle est surtout aussi sur la communication, les mots utilisés, la perception, donc c'est aussi quelque part le jugement que portent les autres sur notre activité et qui en fait parce qu'on fait plus de choses, ils sont plus exigeants et ont un jugement encore plus radical, je dirais. Donc le paradoxe est là en fait, je trouve.
Mais donc au moment où, parce qu'en fait je me disais mais est-ce que ça y est, est-ce que une personne qui a créer, lancer une boutique comme À la Source, c'est encore un signal faible où finalement, ça y est, en fait, on en voit de partout dans toutes les villes et c'est déjà presque devenu commun. Toi, tu me confirmes que pour l'instant, tu te sens encore un peu comme David contre Goliath.
Exactement. Après, en plus, même dans le milieu des épiceries vrac, je me sens seule, quoi. C'est-à-dire que des épiceries vrac ou des porteurs de projets qui veulent ouvrir des épiceries vrac, il y en a de plus en plus, ça se compte par centaines par an. Après il y en a quelques-unes qui ferment, mais bon après c'est plus pour des raisons personnelles, c'est pas parce que la tendance fait que ça marche pas, etc. Donc c'est rassurant, il y a quand même une demande du public, il y a aussi des personnes qui veulent aussi ouvrir, ça veut dire répondre aux besoins du public, donc tant mieux. Quelque part le signal que la grande distribution s'y met aussi en invitant des grandes enseignes aussi franchisées à implanter des rayons vrac sans les citer, ou par exemple agrandir les rayons bio ou aussi avec plus de références vrac, c'est quelque part un signe aussi que les choses évoluent, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais le côté indépendant, être seul comme nous on a choisi d'être et de en plus apporter un aspect un peu plus radical quand même, un peu ou très radical sur l'aspect zéro déchet entreprise. Là, pour le coup, on est vraiment seul et c'est des fois, on est face à une réaction, mais pourquoi vous faites ça ? Tout est recyclable, vous pourrez tout mettre à la poubelle du recyclage. Et du coup, l'explication qu'on donne, c'est plus même plus du tout en fait une explication de mode de vie, c'est une explication politique en fait. Nous, on est militants aussi sur l'aspect politique.
Et justement, rentrons dans ce sujet-là. On tourne autour du pot depuis tout à l'heure. C'est quoi la différence entre une boutique vrac et une boutique zéro déchet ?
Le vrac, la définition, c'est en fait juste une manière de présenter les produits. C'est-à-dire acheter une courgette au poids, c'est du vrac. Acheter ses noix de cajou dans son sac à vrac, bah, c'est du vrac. Acheter de l'huile à la quantité souhaitée dans sa bouteille d'huile, c'est du vrac. Le zéro déchet, c'est un engagement plus global et qui implique notamment le vrac. Donc en fait, c'est juste une petite partie de la démarche zéro déchet. Quelque part, faire du zéro déchet, c'est aussi faire appel à la consigne, c'est aussi travailler main dans la main avec les producteurs locaux au maximum, c'est avoir une démarche éco-responsable sur d'autres aspects que juste les produits qu'on vend, etc. C'est un peu le 5R. Alors, nous, ici, on pratique le 3R, du coup, qui va être refuser, réduire et réutiliser, sans le recyclage, le 4e R, et le rendre à la terre, finalement, on l'a mis dans le 3e, qui est réutiliser, c'est-à-dire valoriser autrement. Et du coup, cette nuance-là, elle n'est pas toujours comprise parce que l'aspect visuel d'une épicerie zéro déchet comme la nôtre, pour un client, est celle d'une épicerie vrac. Là où, quelque part, ils auront un petit peu des signaux que c'est un peu différent, c'est quand ils nous posent des questions, oui, mais pourquoi, du coup, c'est consigné, etc. On n'a pas de produit à emballage jetable, on consigne tout, ce qui ne peut pas être vendu en vrac. Et du coup, aujourd'hui, on s'amuse. D'ailleurs, on a eu pendant 2 mois en stage Gaël qui est venu nous aider à peser tous nos contenants, à faire un tableau Excel où elle a répertorié toutes les factures, donc chapeau, de 3 ans d'activité de l'épicerie. Et en fait, elle a essayé de faire des moyennes sur le poids des emballages par rapport au nombre de portions qu'il peut y avoir, en comparant par rapport à, par exemple, un paquet de biscuits acheté chez Biocoop ou autre magasin, tout simplement, en fait, qui sont dans des barquettes plastiques, emballées dans du plastique, emballées dans un carton, qui lui-même arrive dans un carton, qui lui-même arrive dans un plastique, qui est sur une palette, etc. Donc, en fait, elle a essayé de décortiquer tout ça pour arriver à des constats qu'aujourd'hui, le fait d'acheter en vrac n'est pas forcément zéro déchet. Parce que nous, en tant que commerce, on a énormément d'emballages. Tout ce qu'on a ici, c'est des choses, en tout cas dans cette pièce.
Parce que les gens, ils ne le savent pas, ils ne le voient pas. Alors, on est dans les limites du podcast. Moi qui ai travaillé en tant que coopérateur dans un supermarché coopératif, je sais à quel point l'arrière-boutique est assez conséquente. Démesuré, mais c'est sûr qu'on voit tous les déchets qui sont derrière le vrac. Il y en a beaucoup. Ici, on est dans l'arrière-boutique qui fait aussi office de bureau. Effectivement, il y a des cagettes, mais en fait, c'est pas des déchets, c'est des cagettes qui vont être réutilisées, des cartons. Et ça me fait me dire à quel point la génération de déchets dans votre boutique, elle est inexistante ou quasi inexistante. Et là, ça change tout, hein.
Voilà. Sur la définition du déchet, on change complètement parce que c'est plus un déchet pour nous, c'est une ressource qui peut servir à quelqu'un d'autre. Alors ici, tu vois la partie sympa, mais en tout cas, dans l'autre pièce qui est à côté, on a des bacs en plastique transparents pour qu'on puisse voir à travers tous les emballages plastiques, d'autres emballages qui sont difficilement réutilisables, difficilement partageables à l'heure actuelle. Et donc après, je pourrais parler des projets qu'on a pour la suite. Mais en tout cas, on s'attaque aussi à toute cette partie-là qui, pour le coup, est compliquée à réduire aussi parce qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas être livrés autrement qu'en plastique, en fait. Et des fois, il y a des personnes qui vont venir ici et vont dire « Ouais, je suis trop contente, j'ai acheté sans plastique ». Bah non, en fait, parce que les biscuits que vous achetez en vrac, ils sont arrivés dans du plastique, dans du carton. Il y a toujours du plastique, en fait. C'est la tristesse aujourd'hui de constater que c'est comme ça.
Et donc, c'est quoi les projets d'après ?
C'est créer, en fait, une sorte de ressourcerie. Alors, j'ai pas envie de dire musée, parce que c'est quand même pas l'objet de montrer ce qu'on fait avec, mais de faire circuler, donc... Un petit peu comme Mineka, que Johan Boichon, que t'avais interviewé aussi, c'est un sort de Mineka des emballages. Donc en fait, créer un sort de showroom possibilité en fait de payer à prix libre ou même pas payer si on n'en a pas les moyens, pour prendre des cartons pour son déménagement, pour prendre des cagettes parce qu'on démarre dans une activité. En fait, on a beaucoup de sollicitations de personnes qui démarrent des petites activités ou qui font des choses créatives ou même des maîtresses d'école et qui en fait nous sollicitent comme ça par petites touches, sauf que nous ça prend du temps et après il faut fouiller dans nos déchets, puis dans nos matériaux pour le coup. Et en fait, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous occupe la place comme ici. Et l'objectif, c'est vraiment de créer cet espace qui est vraiment à part, sortir de l'épicerie et aussi attirer un public qui peut déposer, comme des bouchons en liège, d'autres choses qui sont utiles. La liste est très longue, en tout cas, d'objets qui sont intéressants pour les gens. Et de les réutiliser, de faire des projets locaux. Parce que moi, ce que je veux, mon combat, c'est relocaliser le déchet aussi. Donc le côté locavore de l'épicerie, c'est pas que acheter local, mais que le déchet reste là, qu'il se transforme en matériaux et qu'il ne voyage pas qui ne génèrent pas non plus aussi de la plus-value à des grands groupes. Donc l'engagement politique était là, c'est je ne veux pas donner de l'argent à des grands groupes, toujours les mêmes sans les citer, qui transforment l'emballage, qu'ils vendent à l'étranger, ça voyage. Aujourd'hui, on poste beaucoup sur les réseaux sociaux des images de mangues qui ont grandi, qui ont poussé en Argentine, qui ont voyagé en Thaïlande pour être emballées, pour revenir aux États-Unis. L'emballage, c'est tout pareil. On n'en parle pas assez, en fait, je pense.
Et donc, tu disais, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends le zéro déchet accolé au terme politique. Souvent, on peut reprocher au zéro déchet de se contenter de la démarche individualisée, individualisante. En fait, chacun va vivre de son côté sans déchets, nettoyer les murs de sa maison avec du vinaigre blanc. Mais finalement, le collectif, la rupture, elle advient pas si on reste chacun dans notre sillon. Et donc, toi, tu parles de politique, tu peux développer un peu cette notion, tu l'as dit, donc du coup, ne pas continuer à alimenter économiquement les grands groupes qui se font du beurre sur tous ces sujets.
Exactement.
Quoi d'autre ?
Bah, en fait, pour moi, la politique, elle s'entend dans un collectif. On ne peut pas faire de la politique dans son coin. C'est en fait défendre des projets communs vers une société dans laquelle on souhaite vivre, se projeter pour nos enfants, pour nous-mêmes, parce qu'aussi notre durée de vie se rallonge quand même. C'est se projeter, moi, dans 50 ans, dans quel monde j'ai envie de vivre. Donc, en fait, comme tu le dis très bien, sortir de ces problématiques de chez soi. Moi, c'est exactement ce que je veux, c'est que les gens... Ok, c'est très important de dire, voilà, j'ai réduit mes déchets chez moi, j'achète en vrac et tout. Mais pour moi, c'est vraiment le premier pas, en fait. C'est un début. C'est-à-dire qu'aller soutenir des commerces ou des artisans, des personnes qui quittent leur job, qui se lancent dans une reconversion. Par exemple, mon copain, il quitte un bureau d'études et il va faire des couteaux, il va devenir coutelier. Donc, c'est des histoires comme ça que j'ai envie de raconter, d'encourager et... en tout cas de mettre aussi en lumière pour relocaliser aussi des savoir-faire. On se plaint qu'il y a beaucoup de métiers de savoir-faire qui partent à l'étranger, des gens qui font des études ici qui partent ailleurs pour pareil rapporter de l'argent à des grands groupes ailleurs. Ça aussi c'est remettre les gens finalement qui apportent de la valeur ici, donner de l'argent à son commerçant. C'est quelque part aussi prendre conscience que nous, dans le zéro déchet tel que nous le faisons à notre échelle, on ne pourrait pas le faire tout seul non plus. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment vu avec ce test de 3 ans, que si on devait appliquer le zéro déchet tel qu'il est à la mode aujourd'hui, puisque c'est vraiment un peu aussi ce constat, c'est presque une mode, de « j'aurais dû mes déchets chez moi dans ma poubelle, je fais du recyclage, je fais mes petits sacs à vrac tout seul », ben en fait, ça ne marcherait pas parce que nous, on réussit à être zéro déchet parce qu'on a trouvé des fournisseurs qui sont ravis de travailler comme ça avec nous. Certains, ils démarrent, donc c'est une contrainte au début, mais après, ils se rendent compte aussi de l'énormité aussi de volume que ça réduit, le zéro déchet, grâce aux clients qui nous soutiennent, grâce aux salariés aussi, toutes les personnes qui sont ici sont en reconversion et qui s'investissent dans de nouveaux projets avec aussi quelque chose qui les motive et fidélise, c'est cet engagement, cette valeur-là, mais aussi tous les autres acteurs. Ça va être justement, on parlait de ces petits artisans, les maîtresses d'école, des associations, des personnes qui se lancent dans des projets justement d'économie circulaire et qui, en fait, on se soutient entre nous. Donc aujourd'hui, on le fait quelque part bénévolement. C'est sur notre espace, notre temps, pour pouvoir lancer ça, en fait, insouffler cette idée-là. Un jour, j'espère que ça sera plus viabilisé, que ça va grandir et que d'autres personnes voudront aussi partager leurs déchets qui se transformeront en matériaux. Et qu'on n'aura plus le réflexe d'aller acheter un carton pour déménager, que du coup, justement, on va réutiliser énormément de choses au maximum. Donc, par exemple, on a ce projet de showroom dont je parlais, qui va être accolé à un projet de drive livraison qu'on veut faire. Premier drive et livraison, 100% zéro déchet pour le client et pour l'entreprise aussi, qui est un challenge aussi, bien sûr, ce souhait de démocratiser au maximum, d'en parler, en fait, pour que ça devienne quelque part plus... comment dire, bizarre ou comme on disait, utopiste. Justement, j'aimerais que ça devienne un sujet normal et qu'on sorte, comme tu dis, des préoccupations individuelles, mais dire « Ouais, moi je soutiens une entreprise qui fait ça, ça, ça. » Et puis j'ai voté pour un élu qui soutient les entreprises et qui soutient aussi mes démarches d'installer un composteur collectif dans le quartier, etc. etc. C'est cet écosystème-là, en fait. On parle d'écosystème.
Ouais, c'est ce que j'entends. Donc, à la source et... pas très loin de la gare de la Part-Dieu, pour ceux qui vivent à Lyon, à 3-5 minutes en vélo peut-être. Hein. On est ici à côté de la place Guichard, si je dis pas de bêtises. Comme ça, les gens arrivent à nous localiser un petit peu plus, en tout cas les Lyonnais ou les personnes qui connaissent Lyon. Ce que j'entends, c'est quand même, si le zéro déchet se limite à une mode, finalement, il reste subi. Et on continue à avoir un peu le même système de mondialisation, d'exploitation, où les choses viennent de très loin, valorisent très peu les personnes qui sont impliquées dans toute la création de valeur et qui derrière, en fait, ne participent pas à élever le consommateur, à le détacher, à le libérer aussi de ce simple rôle de consommateur. De ce que j'entends, c'est qu'à la source, vous êtes dans la pédagogie, dans l'accompagnement, mais dans la recréation d'un maillage local. Et j'imagine que autour de la place Guichard, même dans la limite de Lyon, et sans doute un peu plus avec les producteurs, notamment de toutes les denrées alimentaires que tu proposes ici, vous avez réussi à vraiment renforcer ce tissu. Et que c'est ça aussi faire de la politique, c'est permettre la résilience, la connexion étroite entre les gens, et de permettre aux gens de consommer, non pas pour toujours aller vers le plus, mais au contraire, vraiment répondre à leurs besoins premiers et basta.
Oui, c'est ça. T'as exactement les mots que je cherchais. C'est tout à fait ça. Et la résilience, en fait, en plus, ça fait le parallèle avec le minimalisme, parce que souvent, le minimalisme, c'est aussi abandonner des choses. C'est refuser, c'est le lâcher prise. C'est intéressant le mot que t'as utilisé. Et du coup, effectivement, remettre tout dans le tissu, cette entraide, la solidarité, on en parle beaucoup, mais des fois, moi par exemple, avant de m'engager dans le milieu associatif, je voyais ces mots un peu partout, l'aide, entraide, solidarité, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais concrètement, ça veut dire quoi? Du coup, est-ce qu'on va... alors, j'aime pas faire des rapprochements avec la Bible, parce que je suis pas croyante, mais on disait apprendre à pécher, du coup, forcément, la personne, elle va s'en sortir, elle va comprendre pourquoi elle fait les choses, et elle va être autonome, ou l'aider à chaque fois et lui pêcher un poisson. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est donner l'information, être transparent, être honnête, ne pas prendre les consommateurs pour des pigeons. C'est leur dire, si je vous facture ce petit papier sulfurisé pour le fromage à 5 centimes, c'est qu'il y a une raison, que les autres commerçants, vous avez l'impression qu'ils vous donnent gratuitement, mais il est inclus dans le prix du fromage. Donc, tout coûte quelque chose, rien n'est gratuit, tout est une question d'échange. Donc, c'est exactement la même chose avec l'entraide locale. C'est pas une question de rapport capitaliste à l'argent, mais justement de d'échange. Moi, je vois plutôt ça comme ça, dans le sens, rien n'est gratuit, c'est que il y a des personnes qui donnent et d'autres qui prennent en échange. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté, parce qu'elle m'a énormément apporté. Moi, toute seule, j'aurais jamais pu ouvrir cette épicerie-là. Je remercie énormément à toutes les personnes qui ont soutenu le projet, que ce soit moralement, psychologiquement, financièrement, techniquement. Sur tous les aspects qui sont très très importants et qui continuent à soutenir aussi parce que pareil même si c'est un projet qui est très radical et assez poussé dans sa démarche écolo, s'il n'y avait pas de gens qui seraient intéressés de soutenir, ça ne marcherait jamais. Et donc en retour, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire en fait, quelque part se poser, prendre du recul. Et c'est un peu ce qui est arrivé quand j'avais commencé à réfléchir sur ce que j'avais envie de faire, en fait, après mon ancien travail, parce que j'ai aussi fait une reconversion. Et donc, l'idée d'une épicerie vraie qui était venue à l'époque, et je me suis dit, mais c'est pas assez. Je serais hypocrite envers moi-même si j'enlevais les emballages des clients pour les mettre dans ma poubelle, en fait. Donc, je me suis dit, faut faire quelque chose. Et j'ai visité des centres de tri, des centres de recyclage, de traitement de verre, de compostage à grande échelle, avec Racine, par exemple, autour de Lyon. Et en fait, tout ça, ça m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, juste par des préoccupations individualistes, je génère énormément de problématiques qui coûtent très cher à la collectivité en plus, juste pour pouvoir vendre dans un joli magasin des produits en vrac parce que c'est la mode. J'ai dit non, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, tous les trucs contre lesquels je me bats, j'ai pas envie d'incarner ça. Donc, c'est aussi un peu pour illustrer, ouais, effectivement, ce côté communauté, le retour finalement des choses et de créer ces échanges positifs aussi, sans attendre en retour.
Merci pour ton témoignage et surtout ton honnêteté, ton envie de lever le voile hein, sur ce milieu qui, c'est vrai, prend de plus en plus la lumière, mais qui, de temps en temps, peut créer des raccourcis simplistes. Et là, c'est aussi pour ça que je voulais venir ici, c'est parce que je savais que tu allais apporter de la nuance, de la complexité dans ces sujets qui en méritent. On vient de passer déjà près de 20 minutes ensemble, Aneta. On va partir dans quelques minutes en 2030 glorieuse. Mais avant ça, j'aime donner la possibilité à la personne avec laquelle je passe un moment, comme ça, de nous offrir une bulle d'inspiration, parce que je suis persuadé que non seulement on a tout un tas de bulles d'inspiration avec les personnes comme toi, qui lance des initiatives qu'on voit de plus en plus émerger un peu de partout, dans la ville notamment, mais il y en a aussi dans les bibliothèques, dans nos étagères, dans nos bouquins. Et du coup, j'aimerais que tu nous lises un petit extrait, toi, d'un livre qui t'a touché et qui, en fait, donne à voir, comme ça, une de ces utopies réalistes, hein, de ces avenirs cet'homme. Qu'est-ce que tu vas nous lire alors?
Je vais lire un extrait du livre « L'essentialisme », qui est écrit par Greg McKeown, et quelque part, une autre facette du minimalisme, ou plutôt le minimalisme est une autre facette de l'essentialisme. Voici l'extrait. Du nom poli. Citation, le courage, c'est la grâce sous pression, de Ernest Hemingway. Le « bon » entre guillemets « nom », dit au bon moment, peut changer le cours de l'histoire. Pour ne prendre qu'un exemple, citons l'afro-américaine Rosa Parks, qui refusa avec calme et détermination de laisser sa place dans un bus soumis à la ségrégation, donnant ainsi le coup d'envoi au mouvement des droits civiques aux États-Unis. Parks se rappelle « Quand le chauffeur a vu que j'étais encore assise, il m'a demandé de me lever. J'ai simplement dit non. » Contrairement à ce que l'on dit souvent, son refus courageux n'était pas le fruit d'une personnalité particulièrement affirmée et d'une assurance hors du commun. Parks explique d'ailleurs que si elle est ensuite devenue secrétaire du président du chapitre de Montgomery du NACCP, c'est simplement parce qu'elle était la seule femme présente, qu'ils avaient besoin d'une secrétaire et qu'elle était trop timide pour dire non. Sa décision dans le bus est donc plutôt née de la profonde conviction que c'était la chose à faire à ce moment-là. « Quand le chauffeur lui a ordonné de laisser sa place, raconte-t-elle, j'ai senti la détermination recouvrir mon corps comme un édredon pour une nuit d'hiver. Elle ne savait pas que sa décision allait déclencher un mouvement qui aurait des répercussions dans le monde entier. Mais elle savait ce qu'il y avait au fond de son cœur. Alors même que les policiers l'arrêtaient, elle savait que c'était la dernière fois qu'elle subirait une telle humiliation dans le bus. » Refuser l'humiliation valait bien le risque d'être incarcérée. C'était pour elle essentiel. Certes, nous avons peu de risques de nous retrouver dans une telle situation, mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre Rosa Parks pour modèle. Pensons à elle, quand nous devons trouver le courage de dire non. Rappelons-nous sa force de conviction, quand nous devons défendre notre position et tenir bon face aux pressions sociales qui voudraient nous faire oublier l'essentiel. C'est quelque part un peu l'introduction à la capacité d'être assertif, en fait, dans le bouquin. C'est vrai que j'aime bien ce passage qui est assez fort dans tout le livre pour illustrer le courage, enfin, en tout cas, le mot courage que donnent les autres à ces actes que prennent d'autres personnes. Nous aussi, on nous a dit « vous avez le courage ». Quand on a lancé l'épicerie, moi je me disais mais pourquoi, enfin, moi je trouve ça juste normal en fait. Donc, du coup c'est quelque part aussi pour moi tout démarre en fait de la capacité à justement dire non. Alors il y a la manière de faire aussi, mais sur le fond en tout cas, d'être assertif et de pouvoir défendre ses positions, ses principes, d'autant plus s'ils sont universels, Et justement, ça rejoint la société de consommation, ça rejoint beaucoup de problématiques, de sollicitations, la charge mentale, on en parlait aussi, etc.
Et en fait, ce non, j'ai l'impression que c'est la finalité d'un premier oui. Un oui qu'on se dit à nous-mêmes, de vouloir s'écouter, de vouloir se mettre en résonance avec nos vibrations vraiment premières. Et finalement, c'est ce que tu dis. Pour toi, c'était évident. Il n'y avait pas de non, parce que, en fait, toi, tu t'étais écouté, tu avais dit oui à toutes tes intuitions, à toutes tes envies. Et derrière, après, tu te sens suffisamment ancré, forte, pour soit rester droite dans tes baskets et dire non à ces raccourcis et à la société de surconsommation, soit, en fait, juste dire oui à ton envie de porter au monde ce en quoi tu crois vraiment.
Exactement, c'est ça.
Allez, Aneta, on arrête de parler, on parle de plein de choses passionnantes, on reste dans le présent, et moi, là, j'ai trop envie de partir dans le futur. On est en 2030 glorieuse, je sais que c'est jamais évident, hein, comme ça, on a l'impression de devoir nuancer, de devoir être un peu fataliste ou pessimiste, parfois en France, pour se donner une bonne conscience ou une certaine intelligence. Je sais pas pourquoi on est comme ça, nous, les Français. C'est d'autant plus intéressant de faire cet exercice avec toi, puisque tu n'es pas française, tu es polonaise, ça ne s'entend pas du tout à ton accent qui est absolument impeccable, mais j'étais quand même très curieux de faire cet exercice. Donc ça y est, nous sommes dans un monde où nous avons réussi. Réussi quoi? Je ne sais pas. Nous allons en parler ensemble. Mais nous sommes en 2030 glorieuse. C'est le voyage le plus écologique que tu as jamais fait de toute ta vie, puisque tu n'as pas bougé de ta chaise. Et pourtant, si jamais tu devais ouvrir les yeux dans ces utopies réalistes, qu'est-ce que tu verrais en premier?
Changement de paradigme, tout ce qui nous paraît conventionnel, que j'appellerais aujourd'hui conventionnel, serait minoritaire, serait considéré comme néfaste.
Tu veux dire tout ce qu'on voyait en 2020 comme conventionnel, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça, que ce soit l'alimentation, les modes de transport, la manière de travailler, la manière d'éduquer, toutes ces choses-là, qui seraient finalement... moins présentes.
Elles sont devenues obsolètes.
Voilà,
même,
c'est ça, j'espère. Et finalement, la place, elle serait occupée par justement tous ces combats qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une société où, ensemble, on peut décider et avoir cette liberté de pouvoir agir avec... le changement aussi de la législation qui va vers la défense de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des droits de l'homme, mais je pense à la vie.
Tu dis que toutes les valeurs qu'on savait bonnes, mais qu'on n'arrivait pas à mettre en place, sont aujourd'hui incarnées, notamment peut-être par un changement dans la Constitution qui a réussi à remettre dans l'article 1 la préservation des écosystèmes et du vivant au cœur de notre projet de société. Mais quoi d'autre alors?
Les humains, ils se connaissent, ils prennent le temps, alors que ce soit les parents comme aussi les enseignants, en tout cas toute forme d'éducation individuelle ou collective, aident les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, ou même des adultes tout simplement, à plus aller vers une réflexion, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux apporter à la communauté, qu'est-ce qui est important pour moi et pour les autres. Donc l'entraide est quelque chose de tout à fait commun. On est dépossédé des biens, on est beaucoup dans le partage des biens communs, si on peut appeler ça comme ça.
Ouais,
les communs, exactement.
Ouais, bien sûr.
On ne s'approprie plus les terres, tout le monde aussi est égal face au temps. Il y a plus de notion d'argent. On a trouvé une nouvelle unité de compter finalement les échanges, de mesurer la valeur ajoutée et qui se compterait en temps.
Ouais, c'est intéressant ça. Il y a encore quelques années en arrière, hein, on était les yeux rivés vers l'euro, vers le PIB. Et ça malheureusement mesurait que la croissance. Le PIB d'ailleurs, il a été inventé juste après la Seconde Guerre mondiale pour mesurer cette capacité à reconstruire la société. En 2030 glorieuse, on a enfin laissé cet indice obsolète pour réussir à mesurer autrement une croissance, parce qu'en fait, on est encore dans des croissances de la société, il y en a même plusieurs, mais c'est des croissances, tu le disais tout à l'heure avec l'éducation et le fait de laisser la place pour que chacun grandisse et s'épanouisse, donc il y a ces croissances-là de sens, il y a des croissances de relations au temps, tu le dis, des monnaies temps, ça existe, ça peut être des monnaies fondantes, ça peut être des monnaies qui ne s'épargnent pas, il y a plein de travaux qui existaient à l'époque, aujourd'hui c'est démocratisé, j'ai l'impression qu'en plus ces monnaies se sont aussi beaucoup plus ancrées sur le territoire. Les monnaies locales complémentaires se sont complètement démocratisées. Hein.
Tout à fait. Je pense notamment au système de sécurité et de santé. Aujourd'hui, tout le monde est égal face à des choses qui sont considérées par tout le monde comme un droit. Il y a cette possibilité d'aussi consulter des médecins naturels, qui autrefois étaient appelés alternatifs, je ne sais pas pourquoi.
Oui, mais autrefois, on appelait aussi l'agriculture conventionnelle, l'agriculture qui polluait les sols. Donc, ouais. Tu sais, on a réussi à regagner tout un tas de combats au niveau de la sémantique, hein, du vocabulaire. C'était important, ça.
Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce projet... que chaque personne a, en fait, entre le moment de l'adolescence et jeune adulte, de donner de son temps, donc parmi ce crédit temps, pour le gagner, pour gagner en crédit temps, de donner, en fait, de son temps, de sa présence aux autres, que ce soit pour s'investir dans un projet collectif, aider les anciens, aider, par exemple, des étudiants en difficulté.
Régénérer les écosystèmes, remettre la nature au cœur de la ville.
Là où on a besoin d'eux aussi, c'est
ça.
Bien
sûr.
Là,
avant, il y avait le service militaire qui permettait, c'est vrai, c'est ce que mon père me disait, de mettre un peu tout le monde sur le même pied d'égalité et les classes sociales se mélangeaient et les quartiers se mélangeaient. On était un peu égaux dans une idée de se décentrer, de se mettre au service de quelque chose de plus grand. Ça a été repris, mais cette fois, c'est au service de la nature, c'est au service des autres, c'est quelque chose d'écologique, éco-citoyen, solidaire. Moi, j'appelle ça le SEV, le service éco-volontaire. Ça serait génial de créer quelque chose comme ça pour la jeunesse, mais pas que d'ailleurs.
Ouais, moi, ce que j'aime bien aussi aujourd'hui, c'est que tout le monde est égal, en fait. Tout le monde a les mêmes chances de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Il y a une entraide, une solidarité de la communauté. Alors, il y en a qui mettent en place des petites cagnottes pour... donner des cagnottes temps pour donner du coup de leur temps à un projet, soutenir des initiatives qui sont concertées aussi. Les personnes, elles se renseignent si c'est utile pour la communauté. Mais c'est là où pour moi, il y a eu beaucoup de changements et là où il y a un vrai impact, c'est vraiment l'éducation. L'éducation où il n'y a pas que les enseignants qui prennent... au sérieux l'éducation, mais aussi les parents, aussi la communauté, ou en tout cas le quartier, le village dans lequel on habite. On se sent beaucoup plus en sécurité parce qu'on sait aussi très bien que notre enfant, il va être accompagné, ou en tout cas, il y aura toujours quelqu'un de présent. Il peut librement aussi vaquer à ses occupations. Tout le monde respecte tout le monde. Et justement, il y a ces échanges-là qui sont plus monnayés, heureusement.
J'ai l'impression que le fait d'être sorti de cette course effrénée après l'argent et après la possession nous a, comme tu le dis, redonné le pouvoir d'être horizontalement lié à l'autre plutôt qu'avant verticalement, d'être dépendant parfois même, et donc aussi nous a donné de la liberté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans notre alimentation ? Il y a 10 ans, tu tenais une boutique, notamment une épicerie, zéro déchet, et la question de la consommation, de l'alimentation, était clé. À quoi ça ressemble en 2030, Glorieuse ?
Quelque part, c'est plus un enjeu comme autrefois. C'est tout à fait normal de se dire je fais pousser mes légumes ou j'aide mon voisin aussi à ramasser ses légumes. On s'entraide, lui vient prendre des cerises chez moi et puis moi je lui donne des abricots. On fait nos petites popotes ensemble on s'approprie plus en fait aussi l'alimentation face à l'argent. Enfin, avec cette histoire de crédit temps. On voit aussi que les choses prennent le temps pour pousser, pour les transformer, les fabriquer, les acheminer, les manger, etc. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que Aujourd'hui, on comprend pourquoi on est passé au tout bio. Et je pense que c'est devenu tellement normal qu'aujourd'hui, nos préoccupations, elles sont peut-être ailleurs, à comment préparer aussi notre futur, la retraite.
J'entends que là où on voyait des coûts, aujourd'hui, grâce à cette nouvelle relation à la monnaie et au temps, on voit des investissements, notamment à travers l'alimentation. J'ai l'impression qu'en fait, on se rend compte que mieux manger en 2030 glorieuse, notamment, mieux consommer, mieux valoriser les gens qui travaillent autour de soi, c'est un investissement pour la société, c'est un investissement pour notre santé, c'est un investissement pour nous. En fait.
C'est ça. D'où aussi la médecine naturelle dont je parlais tout à l'heure et qui encourage justement à entreprendre ces modes de vie plus sains aussi. Aujourd'hui, il faut être fou pour manger ce qu'on mangeait il y a 10 ans. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait dire que c'est presque un luxe de retrouver encore des barres chocolatées sous plastique.
Ou une folie.
Ouais. Peut-être qu'il y en a qui les gardent encore dans leur placard. Aujourd'hui, l'enjeu de ce magasin et de cette épicerie n'est plus le même qu'il y a 10 ans.
Il existe encore alors ?
Oui, mais il est géré par les personnes qui souhaitent s'investir dedans et on n'a plus cet enjeu de ramener la bonne bouffe saine en ville, puisque les personnes, pour beaucoup, ont déserté les villes, se sont investies aussi dans les terres et se rendent compte aussi qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Donc il n'y a plus cet enjeu-là et c'est juste les quelques restants qui sont encore malheureusement urbanisés. Mais bon, bientôt, ça ne sera plus le cas.
Pourquoi malheureusement ? Il y a plein de gens qui adorent vivre en
ville.
Oui,
voilà. Mais après, moi, je trouve que c'est triste de voir beaucoup de béton. Mais peut-être
ça, ça a bien changé quand même.
Oui.
Vu que les voitures ont été un peu poussées hors de la ville, même s'il y en a encore qui sont utilisées pour les professionnels notamment, on a récupéré toutes les places de parking. Ces places de parking ont été débétonisées, on y a aussi mis des bacs, il y a beaucoup plus de végétalisation. C'est aussi ça qui nous a permis de recréer et de réancrer, rapprocher notre alimentation, tous les incroyables comestibles qui se sont démocratisés. Je vois beaucoup de choses à gagner dans tout ce que j'entends, dans le 2030 glorieuse que tu dessines. Il y a de la coopération, il y a du lien à l'autre, il y a réussir à remettre la main sur son temps, sur sa santé. Finalement, 2030 glorieuse, ces modes de vie éco-citoyens, c'est un gain, c'est une libération. On n'est pas des rabat-joie, comme le disait Marlène Schiappa il y a 10 ans de ça, à l'époque où on disait « Mais sont-ils devenus fous, ces écolos, à vouloir nous interdire le sapin de Noël coupé et le Tour de France ?»
Oui, on n'a plus besoin de couper de sapin, ils poussent dans la rue, on met des guirlandes dessus. Oui, après, c'était le côté béton pour les immeubles, etc. Il y a quand même, je trouve que le béton, ça vit mal. Moi, je suis contente. Quand il y a 10 ans, je m'investissais dans le parti écologiste, on discutait justement des modes de transport, les modes de circulation à Lyon. Et à l'époque, c'était difficile, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet de condamner une rue et y installer qu'une bande verte de pelouse, parce qu'il y a encore des rues où il y a des projets, déjà c'est fait par les habitants, ils prennent le sujet collectivement, c'est eux qui font, donc ils voient aussi toute la transformation qui est nécessaire à la ville. Ça les implique aussi dans la communauté. Ils rencontrent leurs voisins, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le voisin de l'immeuble en face. Ils font pousser leurs légumes en bas de chez eux ou sur les toits. Les voitures, c'est un peu comme les barres chocolatées sous plastique. Il y en a encore quelques-unes, mais heureusement, elles sont taxées en créditant énormément pour ceux qui peuvent se le permettre peut-être, mais c'est plus de piétonnisation aussi, prendre le temps de se balader, de voir ce qu'il y a autour, justement se poser et d'autant plus aller vers les lieux communs, on parlait de ça tout à l'heure, pour vivre en fait dans son quartier. Finalement, les personnes, elles désertent leur appartement pour aller plus vers l'extérieur, vers l'autre. Donc ça, c'est bien, faire l'école aussi dehors, dans le parc, ramener aussi les animaux On a des petits moutons, des bergers qui viennent, du coup, plutôt que passer la tondeuse comme avant avec du bruit. Enfin, c'était contre-productif, je trouve. Comme ça, tout le monde est gagnant, les enfants, le berger. C'est...
Et toi, Neta, qu'est-ce que tu fais en 2030
Qu'est-ce que je fais? Bah, je peux que me le souhaiter, c'est que je fonde une famille, j'ai des enfants et je leur transmets justement ces valeurs d'une société beaucoup plus écologiste, beaucoup plus solidaire, plus minimaliste aussi. Et mes enfants s'investissent du coup dans cette communauté qu'ils auront choisie aussi, qu'on leur imposera pas, avec des projets bah, du coup d'enfants écolos avec leurs camarades. Que ce soit à Lyon ou ailleurs, je ne sais pas encore, en tout cas. Je me vois aussi toujours entrepreneur. J'aime bien entreprendre de nouveaux projets. Et heureusement, aujourd'hui, je peux beaucoup plus facilement. Je me sens beaucoup plus libre de faire ce que j'ai envie avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Je me sens entourée. J'ai une communauté qui me soutient. Je soutiens aussi des projets, d'ailleurs, très, très écolos aussi, investis dans la communauté.
Et tu partages ton expérience parce que tu fais partie des pionnières hein, de ces sujets-là.
C'est ce qu'on me dit. Je ne réalise pas encore. C'est ce qu'on me dit. Mais oui, j'ai envie, en fait. J'ai envie de continuer à faire ça tout le temps, en fait. Que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Je me sens l'âme entrepreneur.
J'adore ce 2030 glorieuse que tu viens de dessiner. Un 2030 glorieuse où on redonne de la place à l'autre, on redonne de la place au temps et on se reconnecte à nous-mêmes et en réussissant à cerner qui nous sommes, finalement, on reconnaît aussi l'autre dans son entièreté, son originalité. C'est beaucoup ce que tu as dit. J'ai beaucoup entendu de coopération, d'entraide. On revient maintenant en 2020, ça y est, on revient à notre quotidien. Les gens qui ont voyagé avec nous vers ces 2030 glorieuses, ils se sont projetés, ils se sont enthousiasmés. Toi, qu'est-ce que tu leur conseilles comme premier pas pour justement cheminer vers ce 2030 glorieuses qu'on a dessiné ensemble?
Je pense qu'il faut être ambitieux. Moi, l'ambition ne m'a jamais quittée depuis que je suis petite. J'ai toujours vu les choses en grand. J'ai cette expression qui me reste tout le temps dans ma tête... si on vise la Lune, dans le pire des cas, on atterrit dans les étoiles. Donc, ce qui se vérifie d'ailleurs, c'est que si on veut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, au final, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut aussi s'entourer. Donc, c'est une invitation aussi à aller vers l'autre et de co-construire avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Donc, aujourd'hui, on n'est vraiment pas seul grâce aux réseaux sociaux. Alors ça aussi, c'est point négatif. Mais parmi les points positifs, c'est justement de trouver des gens comme nous et commencer déjà par là, sans forcément créer un communautarisme et créer une bulle. Mais c'est nécessaire quand même, je trouve, pour démarrer, ne pas être seul et rêver ambitieux.
Donc c'est vraiment le seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voir l'autre comme une force plutôt que comme une menace.
C'est ça. Et moi, j'ai appris ça avec le temps. J'ai été très... je dirais pas individualiste, peut-être égoïste. J'étais avant, quand j'étais matérialiste aussi, enfin avant d'être minimaliste. Et j'ai appris en fait justement cette vérité-là. Ça m'a beaucoup apporté. C'est pas facile tous les jours parce que on peut avoir les mêmes valeurs, mais pas toujours les mêmes objectifs ou les mêmes centres d'intérêt. Mais justement, c'est apprendre à vivre avec cette richesse-là. Et d'autant plus aller à l'essentiel et justement s'entourer de bonnes personnes, ne pas forcément brasser, perdre son énergie à faire 36 000 trucs. C'est un peu aussi le piège aujourd'hui des gens qui veulent changer la société et voilà, s'éparpiller et faire plein de petites choses en pensant que ça va changer les choses. Bah en fait, ça va changer les choses, mais ensemble. Du coup, c'est faire les choses ensemble. Et quelque part, on est tous humains, donc on peut perdre en motivation. Il y a des moments où on n'a pas envie, où on a juste envie d'être chez nous et de lire un bouquin avec un chocolat chaud.
On a le droit.
Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est exactement ça, relativiser, lâcher prise et de se dire que d'autant plus parce qu'on fait les choses ensemble, bah, c'est pas grave, du coup. Parce que justement, on déculpabilise, on s'enlève un poids des épaules. Et on se dit, mais attends, il y a quelqu'un qui prend le relais, c'est bon, je peux rester chez moi. Donc, c'est aussi ça, c'est se dire, pas faire les choses tout seul, parce que c'est trop de pression. apporter des choses et en retour, comme je disais, les échanges sans attendre qu'on nous ramène en retour ce qu'on a donné. Parce que ça s'équilibre, ça finit par s'équilibrer tout le temps. Donc, c'est rêver grand, comme ça au moins, dans le pire des cas, au minimum, on fera toujours 10% ou 20%. Et après, si on se donne les moyens, on peut toujours atteindre les 100%. Mais c'était un peu plus mon témoignage personnel. Ça s'est vérifié pour moi, donc du coup, ouais, je dirais plutôt ça.
Merci Aneta.
Merci.
Ça y est, cet échange avec Aneta vient de se terminer. J'espère que, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter et découvrir Aneta et son projet à la source. Ce qui me plaisait dans sa démarche et ce que je voulais vous donner à voir, c'était vraiment la nécessité pour Aneta de ne pas faire de compromis, en fait, dans son envie de se mettre en accord avec ses valeurs, dans son envie de dépasser les déchets obligatoires dans les commerces du quotidien et dans sa volonté constante de toujours aller au-delà des obstacles qu'on trouve dans ce genre d'initiative. Voilà, Aneta, elle a voulu sortir aussi du greenwashing qui peut être une sorte de frein parce que soit on tombe dedans comme un piège quand on est consommateur, soit on s'en contente quand on est entrepreneur. Et elle, au contraire, elle a décidé de dépasser ça. Et je trouvais que c'était passionnant pour montrer à quel point être ambitieux, c'est aussi toujours se poser des questions et toujours essayer de faire mieux. Et puis 2030 Glorieuse, ça a vraiment été créé pour ça. Ça a été créé pour rêver, pour se projeter loin, pour oser aussi petit à petit regarder d'une autre manière ce qu'on prend pour acquis actuellement, et sa proposition d'une monnaie temps est tout à fait dans cette veine. Voilà. On réfléchirait complètement différemment si plutôt que de s'échanger des euros, on s'échangeait une monnaie temps qui nous permettrait d'investir notre argent, mais du coup aussi notre énergie et différemment. On verrait notre quotidien, on verrait nos passions, on verrait notre engagement différemment, on le revaloriserait, on remettrait au cœur de notre société des valeurs bien plus importantes et respectueuses du vivant. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît encore une fois dans la réflexion d'Aneta et dans cette proposition de 2030 glorieuse. J'espère encore une fois que vous continuez à cheminer avec plaisir avec moi dans ces futurs souhaitables, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !